Crime et châtiment, cinquième partie. Chapitre 1. Le lendemain du jour fatal où Pierre Petrovitch avait eu son explication avec les dames Raskolnikov, ses idées s'éclaircirent, et, à son extrême chagrin, force lui fut de reconnaître que la rupture, à laquelle il ne voulait pas croire la veille encore, était bel et bien un fait accompli. Le noir serpent de l'amour-propre blessé lui avait mordu le cœur pendant toute la nuit. Au saut du lit, le premier mouvement de Pierre Petrovitch fut d'aller se regarder dans la glace. Il craignait que, durant la nuit, un épanchement de bile ne se fût produit chez lui. Heureusement, cette appréhension n'était pas fondée. En considérant son visage, pâle et distingué, il se consola même un instant par la pensée qu'il ne serait pas gêné de remplacer Dounia, et, qui sait, peut-être avantageusement. Mais il ne tarda pas à bannir cet espoir chimérique, et il lança de côté un vigoureux jet de salive, ce qui amena un sourire moqueur sur les lèvres de son jeune ami et compagnon de chambre, André Semenovitch Lebeziatnikov. Pierre Petrovitch remarqua cette raillerie muette et la porta au compte de son jeune ami, compte qui était passablement chargé depuis quelque temps. Sa colère redoubla lorsqu'il eut réfléchi qu'il n'aurait pas dû parler de cette histoire à André Semenovitch. C'était la seconde sottise que l'emportement lui avait fait commettre hier soir. Il avait cédé au besoin d'épancher le trop-plein de son irritation. Durant toute cette matinée, la malchance s'ingénia à persécuter Lougine. Au Sénat même, l'affaire dont il s'occupait lui réservait un déboire. Ce qui le vexait surtout, c'était de ne pouvoir faire entendre raison au propriétaire du logement qu'il avait arrêté en vue de son prochain mariage. Cet individu, allemand d'origine, était un ancien ouvrier à qui la fortune avait souri. Il n'acceptait aucune transaction et réclamait le paiement entier du dédit stipulé dans le contrat, bien que Pierre Petrovitch lui rendît l'appartement presque remis à neuf. Le tapissier ne se montrait pas moins roide. Il prétendait garder jusqu'au dernier rouble des arts qu'il avait touchés sur la vente d'un mobilier dont Pierre Petrovitch n'avait pas encore pris livraison. « Va-t-il falloir que je me marie exprès pour mes meubles ?» se disait en grinçant des dents le malheureux homme d'affaires. En même temps, un dernier espoir traversait son âme. Est-il possible que le mal soit sans remède? N'y a-t-il plus rien à tenter? Le souvenir des charmes de Dounechka s'était enfoncé dans son cœur comme une épine. Ce fut pour lui un dur moment à passer. Et sans doute, s'il avait pu, par un simple désir, faire mourir Raskolnikov, Pierre Petrovitch l'eût tué immédiatement. Une autre sottise de ma part a été de ne pas leur donner d'argent, pensait-il, tandis qu'il regagnait tristement la chambrette de Lebeziatnikov. Pourquoi diable ai-je été si juif? C'était un mauvais calcul. En les laissant momentanément dans la gêne, je croyais les préparer à voir ensuite en moi une providence. Et voilà qu'elle me glisse entre les doigts. Non, si je leur avais donné, par exemple, 1500 roubles, de quoi se monter un trousseau, si je leur avais acheté quelques cadeaux au magasin anglais, cette conduite aurait été à la fois plus noble et plus habile. Elle ne m'aurait pas lâché aussi facilement qu'elles l'ont fait. Avec leurs principes, elles se seraient certainement crues obligées de me rendre, en cas de rupture, cadeaux et argent. Mais cette restitution leur aurait été pénible et difficile. Et puis, ça aurait été pour elles une affaire de conscience. Comment, se serait-elle dit, mettre ainsi à la porte un homme qui s'est montré si généreux et si délicat? J'ai fait une boulette. Pierre Petrovitch eut un nouveau grincement de dents et se traita d'imbécile dans son fort intérieur, bien entendu. Arrivé à cette conclusion sur lui-même, il rapporta au logis beaucoup plus de mauvaise humeur et de mécontentement qu'il n'en avait emporté. Cependant, sa curiosité fut attirée jusqu'à un certain point par le remue-ménage auquel donnaient lieu, chez Catherine Ivanovna, les préparatifs du dîner. La veille, déjà, il avait entendu parler de ce repas. Il se rappelait même qu'on l'y avait invité. Mais ses préoccupations personnelles l'avaient empêché de faire attention à cela. En l'absence de Catherine Ivanovna, alors au cimetière, Madame Lippwetzel s'empressait autour de la table sur laquelle le couvert était mis. En causant avec la logeuse, Pierre Petrovitch apprit qu'il s'agissait d'un véritable dîner de cérémonie. On avait invité presque tous les locataires de la maison, et parmi eux, plusieurs qui n'avaient pas connu le défunt. André Seminovitch Lebeziatnikov lui-même avait reçu une invitation, nonobstant sa brouille avec Catherine Ivanovna. Enfin, on s'estimerait très heureux si Pierre Petrovitch consentait à honorer ce repas de sa présence, attendu qu'il était de tous les locataires le personnage le plus qualifié. Catherine Ivanovna, oubliant tous ses griefs contre sa logeuse, avait cru devoir adresser à celle-ci une invitation en règle. Aussi était-ce avec une sorte de joie qu'Amalia Ivanovna s'occupait en ce moment du dîner. De plus, Madame Lippwetzel avait fait grande toilette, et quoiqu'elle fût vêtue de deuil, elle trouvait un vif plaisir à exhiber une belle robe de soie toute neuve. Instruit de tous ces détails, Pierre Petrovitch eut une idée, et il rentra pensif dans sa chambre, ou plutôt dans celle d'André Seminovitch Lebeziatnikov. Il venait d'apprendre que Raskolnikov figurait au nombre des invités. Ce jour-là, pour une raison ou pour une autre, André Seminovitch passa toute la matinée chez lui. Entre ce monsieur et Pierre Petrovitch existaient de bizarres relations, assez explicables du reste. Pierre Petrovitch le haïssait et le méprisait au-delà de toute mesure, presque depuis le jour où il était venu lui demander l'hospitalité. Avec cela, il semblait le craindre un peu. En arrivant à Pétersbourg, Loujine était descendu chez les Lebeziatnikov d'abord, et surtout par économie, mais aussi pour un autre motif. Dans sa province, il avait entendu parler d'André Seminovitch, son ancien pupille, comme l'un des jeunes progressistes les plus avancés de la capitale, et même comme d'un homme occupant une place en vue dans certains cercles passés à l'état légendaire. Cette circonstance frappa Pierre Petrovitch. Depuis longtemps, il éprouvait une crainte vague à l'endroit de ces cercles puissants qui savaient tout, ne respectaient personne et faisaient la guerre à tout le monde. Inutile d'ajouter que l'éloignement ne lui permettait pas d'avoir à cet égard une vue bien nette des choses. Comme les autres, il avait entendu dire qu'il existait à Pétersbourg des progressistes, des nihilistes, des redresseurs de tort, etc., etc. Mais dans son esprit, comme dans l'esprit du plus grand nombre, ces mots avaient pris une signification exagérée jusqu'à l'absurde. Ce qu'il redoutait particulièrement, c'était les enquêtes dirigées contre telle ou telle individualité par le Parti révolutionnaire. Certains souvenirs qui remontaient au premier temps de sa carrière ne contribuaient pas peu à fortifier en lui cette crainte, devenue très vive depuis surtout qu'il caressait le rêve de s'établir à Pétersbourg. Deux personnages d'un rang assez élevé, qui avaient protégé ses débuts, s'étaient vus en butte aux attaques des radicaux, et cela avait fort mal fini pour eux. Voilà pourquoi, dès son arrivée dans la capitale, Pierre Petrovitch tenait à s'assurer d'où soufflait le vent, et, en cas de besoin, à gagner les bonnes grâces de nos jeunes générations. Il comptait sur André Seminovitch pour l'y aider. La conversation de Loujine lors de sa visite à Raskolnikov nous a montré qu'il avait déjà réussi à s'approprier en partie le langage des réformateurs. André Seminovitch était employé dans un ministère. Petit, malingre, scrofuleux, il avait des cheveux d'un blond presque blanc et des favoris en côtelettes dont il était très fier. De plus, il avait presque toujours mal aux yeux. Quoiqu'assez bonhomme, au fond, il montrait dans son langage une présomption souvent poussée jusqu'à l'outrecuidance, ce qui contrastait ridiculement avec son chétif extérieur. Il passait, du reste, pour un des locataires les plus comme il faut de la maison, parce qu'il ne s'enivrait pas et payait régulièrement son loyer. Réserve faite de ses mérites, André Semenovitch était, en réalité, assez bête. Un entraînement irréfléchi l'avait porté à s'enrôler sous la bannière du progrès. C'était un de ces innombrables niais qui s'engouent de l'idée à la mode et discréditent par leur sottise une cause à laquelle ils sont parfois très sincèrement attachés. Du reste, nonobstant son bon caractère, les Bezyatnikov en étaient venus à trouver insupportable son hôte et ancien tuteur, Pierre Petrovitch. Des deux côtés, l'antipathie était réciproque. En dépit de sa simplicité, André Semenovitch commençait à s'apercevoir qu'au fond, Pierre Petrovitch le méprisait et qu'il n'y avait rien à faire avec cet homme-là. Il avait essayé de lui exposer le système de Fourier, la théorie de Darwin, mais Pierre Petrovitch, qui s'était contenté d'abord d'écouter d'un air moqueur, ne se gênait plus maintenant pour dire des paroles blessantes à son jeune catéchiste. Le fait est que Loujine avait fini par soupçonner les Bezyatnikov d'être non pas seulement un imbécile, mais un hableur dépourvu de toute importance dans son propre parti. Sa fonction spéciale était la propagande. Et encore, ne devait-il pas être très ferré là-dessus, car il pataugeait souvent dans ses explications. Décidément, qui avait-il à craindre d'un pareil individu? Notons en passant que depuis son installation chez André Semenovitch, surtout dans les premiers temps, Pierre Petrovitch acceptait avec plaisir, ou du moins sans protestation, les compliments fort étranges de son hôte. Quand celui-ci, par exemple, lui prêtait un grand zèle pour l'établissement d'une nouvelle commune dans la rue des Bourgeois, quand il lui disait « Vous êtes trop intelligent pour vous ficher si votre femme prend un amant un mois après votre mariage. Un homme éclairé pour vous ne fera pas baptiser ses enfants, etc. » Pierre Petrovitch ne sourcillait pas en s'entendant louer de la sorte, tant l'éloge, quel qu'il fût, lui était agréable. Il avait négocié quelques titres dans la matinée, et maintenant, assis devant la table, il recomptait la somme qu'il venait de recevoir. André Semenovitch, qui n'avait presque jamais d'argent, se promenait dans la chambre, affectant de considérer ses liasses de billets de banque avec une indifférence méprisante. Naturellement, Pierre Petrovitch ne croyait pas du tout que ce dédain fût sincère. De son côté, les Bezyatnikov devinaient non sans chagrin la pensée sceptique de Loujine, et il se disait que ce dernier était peut-être bien aise d'étaler devant lui son argent pour l'humilier et lui rappeler la distance que la fortune avait mise entre eux. Cette fois, Pierre Petrovitch était plus mal disposé et plus inattentif que jamais, bien que les Bezyatnikov développât son thème favori, l'établissement d'une nouvelle commune d'un genre particulier. L'homme d'affaires n'interrompait ses comptes que pour lâcher de temps à autre quelques observations moqueuses et impolies. Mais André Semenovitch n'en avait cure. La mauvaise humeur de Loujine s'expliquait, à ses yeux, par le dépit d'un amoureux mis à la porte. Aussi avait-il hâte d'aborder ce sujet de conversation, ayant à émettre sur ce chapitre quelques vues progressistes qui pourraient consoler son respectable ami, et, en tout cas, contribuer à son développement ultérieur. Il paraît que l'on prépare un dîner d'enterrement chez chez la veuve, demanda à brûle-pourpoint Loujine, qui interrompit André Semenovitch à l'endroit le plus intéressant de son exposé. « Mais comme si vous ne le saviez pas, Je vous ai parlé hier à ce sujet et je vous ai fait connaître mon avis sur toutes ces cérémonies. Elle vous a aussi invité à ce que j'ai entendu dire. Vous-même, vous avez causé hier avec elle. Je n'aurais jamais cru que dans la misère où elle est, cet imbécile irait dépenser pour un dîner tout l'argent qu'elle a reçu de cet autre imbécile, Raskolnikov. Tout à l'heure, quand je suis rentré, j'ai même été stupéfait en voyant tous ces préparatifs, tous ces vins. Elle a invité plusieurs personnes. Le diable sait ce que c'est. Continua Pierre Petrovitch, qui semblait avoir mis avec intention l'entretien sur ce sujet. « Quoi, vous dites qu'elle m'a aussi invité ? » ajouta-t-il tout à coup en levant la tête. « Mais quand donc cela ? Je ne me le rappelle pas. Mais je n'irai pas, du reste. Qu'est-ce que je ferai là ? Je ne la connais que pour avoir causé une minute avec elle hier. Je lui ai dit que, comme veuve d'employé, elle pourrait obtenir un secours momentané. Serait-ce pour cela qu'elle m'a invité ? Je n'ai pas non plus l'intention d'y aller, dit les Beziatnikov. Il ne manquerait plus que cela. Vous l'avez battue de vos propres mains. On comprend que vous vous fassiez scrupule d'aller dîner chez elle. Qui ai-je battue ? De qui parlez-vous ? Reprit les Beziatnikov, troublé et rougissant. Je vous parle de Catherine Ivanovna, que vous avez battue il y a un mois. J'ai appris cela hier. Les voilà avec leurs convictions. Voilà leur manière de résoudre la question des femmes. Après cette saillie, qui parut lui avoir un peu soulagé le cœur, Pierre Petrovitch se remit à compter son argent. « C'est une sottise et une calomnie !» répliqua vivement les Beziatnikov, qui n'aimait pas qu'on lui rappelât cette histoire. « Les choses ne se sont pas du tout passées ainsi. Ce qu'on vous a raconté est faux. » Dans la circonstance à laquelle vous faites allusion, je me suis borné à me défendre. C'est Catherine Ivanovna elle-même qui, la première, s'est élancée sur moi pour me griffer. Elle a arraché un de mes favoris. Tout homme, je pense, a le droit de défendre sa personnalité. D'ailleurs, je suis ennemi de la violence, d'où qu'elle vienne. Et cela par principe, parce que c'est presque du despotisme. Que devais-je donc faire ? Fallait-il que je la laissasse me brutaliser tout à son aise ? Je me suis contenté de la repousser. Ha ha ! Continuait à ricaner Lougine. Vous me cherchez chicane parce que vous êtes de mauvaise humeur, mais cela ne signifie rien et n'a aucun rapport avec la question des femmes. Je m'étais même fait ce raisonnement. S'il est admis que la femme est l'égale de l'homme en tout, même en force, ce que l'on commence déjà à soutenir. Alors, l'égalité doit exister ici aussi. Naturellement, j'ai réfléchi ensuite qu'au fond, il n'y avait pas lieu de poser la question, car il ne doit pas y avoir de voie de fait dans la société future où les occasions de querelle seront impossibles. Par conséquent, il est absurde de chercher l'égalité dans la lutte. Je ne suis pas si bête. Quoic, du reste, il y ait des querelles. C'est-à-dire que plus tard, il n'y en aura plus, mais pour le moment, il y en a encore. Ah, diable, avec vous, on s'embrouille. Ce n'est pas cette affaire qui m'empêche d'accepter l'invitation de Catherine Ivanovna. Si je ne vais pas dîner chez elle, c'est simplement par principe, pour ne pas sanctionner par ma présence l'idiote coutume des repas d'enterrement. Voilà pourquoi. Du reste, je pourrais y aller pour m'en moquer. Malheureusement, il n'y aura pas de pope. S'il devait y en avoir, j'irai à coup sûr. C'est-à-dire que vous iriez vous asseoir à sa table pour cracher sur elle et sur son hospitalité, n'est-ce pas ? Non, pas pour cracher, mais pour protester, et cela dans un but utile. Je puis indirectement aider à la propagande civilisatrice, qui est le devoir de tout homme. Peut-être remplit-on cette tâche d'autant mieux qu'on y met moins de forme. Je puis semer l'idée, le grain. De ce grain naîtra un fait. Est-ce blesser les gens que d'agir ainsi ? D'abord, ils se froissent, mais ensuite, ils comprennent eux-mêmes qu'on leur a rendu service. « Allons, soit !» interrompit Pierre Petrovitch. « Mais dites-moi donc, vous connaissez la fille du défunt, cette petite maigrichonne ? Est-ce vrai ce qu'on dit d'elle, hein ? Eh bien, quoi? Selon moi, c'est-à-dire selon ma conviction personnelle, sa situation est la situation normale de la femme. Pourquoi pas? C'est-à-dire, distinguons. Dans la société actuelle, sans doute, ce genre de vie n'est pas tout à fait normal, parce qu'il est forcé. Mais dans la société future, il sera absolument normal, parce qu'il sera libre. Maintenant même, elle avait le droit de s'y livrer. Elle était malheureuse. Pourquoi n'aurait-elle pas disposé librement de ce qui est son capital? Bien entendu, dans la société future, le capital n'aura aucune raison d'être. Mais le rôle de la femme galante recevra un autre sens et sera réglé d'une façon rationnelle. Quant à Sophie Semenovna, dans le temps présent, je regarde ses actes comme une énergique protestation contre l'organisation de la société, et je l'estime profondément à cause de cela. Je dirais plus, je la contemple avec bonheur. Pourtant, on m'a raconté que vous l'avez fait mettre à la porte de cette maison. Lebeziatnikov se fâcha. « C'est encore un mensonge » répliqua-t-il avec force. « L'affaire ne s'est nullement passée comme cela. Catherine Ivanovna a raconté toute cette histoire de la façon la plus inexacte parce qu'elle n'y a rien compris. Je n'ai jamais recherché les faveurs de Sophie Semenovna. Je me bornais purement et simplement à la développer, sans aucune arrière-pensée personnelle. » M'efforçant d'éveiller en elle l'esprit de protestation. Je ne voulais pas autre chose. Elle a senti elle-même qu'elle ne pouvait plus demeurer ici. Vous l'avez invitée à faire partie de la commune? Oui, à présent je m'efforce de l'attirer dans la commune. Seulement, elle y sera dans de tout autres conditions qu'ici. Pourquoi riez-vous? Nous voulons fonder notre commune sur des bases plus larges que les précédentes. Nous allons plus loin que nos devanciers. Nous nions plus de choses. Si Dobroliubov et Bielinski sortaient du tombeau, ils m'auraient pour adversaire. En attendant, je continue à développer Sophie Semenovna. C'est une belle, très belle nature. Et vous profitez de cette belle nature?
« Non, non, pas du tout. Au contraire. »«
Au contraire, dit-il.
Vous pouvez m'en croire. Pour quelle raison, je vous prie, me cacherais-je de vous?
Au contraire, il y a même une chose qui m'étonne. Avec moi, elle semble gênée. Elle a comme une pudeur craintive.
Bien entendu, vous la développez. Vous lui prouvez que toutes ces pudeurs sont idiotes. »
« Pas du tout, pas du tout. Oh, quel sens grossier, bête même. Pardonnez-moi, vous donnez au mot « développement ». Oh, mon Dieu, que vous êtes encore peu avancé. Vous ne comprenez rien. Nous cherchons la liberté de la femme, et vous ne pensez qu'à la bagatelle. En laissant de côté la question de la chasteté et de la pudeur féminine, chose en elle-même inutile et même absurde. J'admets parfaitement sa réserve vis-à-vis de moi, attendu qu'en cela, elle ne fait qu'user de sa liberté, exercer son droit. Assurément, si elle me disait elle-même « Je veux t'avoir », j'en serais très heureux, car cette jeune fille me plaît beaucoup. Mais dans l'état présent, des choses, personne sans doute ne s'est jamais montré plus poli et plus convenable avec elle que moi. Personne n'a jamais rendu plus de justice à son mérite. J'attends et j'espère, voilà tout.
Faites-lui plutôt un petit cadeau, je parie que vous n'avez pas encore pensé à cela.
Vous ne comprenez rien, je vous l'ai déjà dit. Sans doute, sa situation semble autoriser vos sarcasmes. Mais la question est tout autre. Vous n'avez que du mépris pour elle. Vous fondant sur un fait qui vous paraît à tort déshonorant, vous refusez de considérer avec humanité une créature humaine. Vous ne savez pas encore quelle nature c'est.
Dites-moi, reprit Lougine, pouvez-vous, ou pour mieux dire, êtes-vous assez lié avec la jeune personne susmentionnée pour la prier de venir une minute ici? Ils doivent être tous revenus du cimetière. Je crois les avoir entendus monter l'escalier. Je voudrais voir un instant cette personne.
« Mais pourquoi ?»
demanda avec étonnement André Semenovitch. « Il faut que je lui parle. Je dois m'en aller d'ici, aujourd'hui ou demain, et j'ai quelque chose à lui communiquer. Du reste, vous pourrez assister à notre entretien, et même cela vaudra mieux. Autrement, Dieu sait ce que vous penseriez. »
« Je ne penserai rien du tout. Je vous ai fait cette question sans y attacher d'importance. Si vous avez affaire à elle, il n'y a rien de plus facile que de la faire venir. Je vais la chercher tout de suite. Et soyez-en sûr, je ne vous gênerai pas. »
Effectivement, 5 minutes après, Lebeziatnikov ramena Sonetchka. Elle arriva, extrêmement surprise et troublée. En pareille circonstance, elle était toujours fort intimidée. Les nouveaux visages lui faisaient grand-peur. C'était chez elle une impression d'enfance, et l'âge avait encore accru cette sauvagerie. Pierre Petrovitch se montra poli et bienveillant. Recevant, lui, homme sérieux et respectable, une créature si jeune et en un sens si intéressante, il crut devoir l'accueillir avec une nuance de familiarité enjouée. Il se hâta de la rassurer et l'invita à prendre un siège en face de lui. Sonia s'assit. Elle regarda successivement les Lebeziatnikov et l'argent placé sur la table. Puis tout à coup, ses yeux se reportèrent sur Pierre Petrovitch, dont ils ne purent se détacher. On eût dit qu'elle subissait une sorte de fascination. Les Lebeziatnikov se dirigea vers la porte. Lougine se leva, fit signe à Sonia de se rasseoir et retint André Semepovitch au moment où celui-ci allait sortir.
« Raskolnikov est là ? Il est arrivé ?» lui demanda-t-il à voix basse. « Raskolnikov, oui. Eh bien, quoi ? Oui, il est là, il vient d'arriver, je l'ai vu. Eh bien ?
En ce cas, je vous prie instamment de rester ici et de ne pas me laisser en tête-à-tête avec cette demoiselle. L'affaire dont il s'agit est insignifiante, mais Dieu sait quelles conjectures on ferait. Je ne veux pas que Raskolnikov aille raconter là... Vous comprenez pourquoi je vous dis cela ?»«
Ah, je comprends, répondit Lebeziatnikov.
« Oui, vous êtes dans votre droit. Sans doute, dans ma conviction personnelle, vos craintes sont fort exagérées. Mais n'importe, vous êtes dans votre droit. » « Soit je resterai. Je vais me mettre près de la fenêtre et je ne vous gênerai pas. À mon avis, c'est votre droit. »
Pierre Petrovitch revint s'asseoir en face de Sonia et la considéra attentivement. Puis son visage prit soudain une expression très grave, presque sévère même.
« Vous non plus, mademoiselle, n'allez pas vous figurer des choses qui ne sont pas, » avait-il l'air de dire.
Sonia perdit définitivement contenance. «
D'abord, excusez-moi, je vous prie, Sophie Semenovna, auprès de votre très honorée maman. Je ne me trompe pas en m'exprimant ainsi. Catherine Ivanovna vous tient lieu de mère. » Commença Pierre Petrovitch d'un ton très sérieux, mais du reste assez aimable. Évidemment, il avait les intentions les plus amicales.
« Oui, en effet, oui, elle me tient lieu de mère, » se hâta de répondre la pauvre Sonia.
« Eh bien, veuillez lui dire combien je regrette que des circonstances indépendantes de ma volonté ne me permettent pas d'accepter sa gracieuse invitation. »
« Oui, je vais le lui dire, tout de suite. »
Et Sonetchka se leva aussitôt.
« Ce n'est pas encore tout, » continua Pierre Petrovitch, qui sourit en voyant la naïveté de la jeune fille et son ignorance des usages mondains. « Vous ne me connaissez guère, très chère Sophie Semenovna. Si vous croyez que pour un motif aussi futile et qui n'intéresse que moi, je me serais permis de déranger une personne telle que vous. J'ai un autre but. »
Sur un geste de son interlocuteur, Sonia s'était empressée de se rasseoir. Les billets de banque multicolores placés sur la table s'offrirent de nouveau à sa vue, mais elle détourna vivement ses yeux et les leva sur Pierre Petrovitch. Regarder l'argent d'autrui lui paraissait d'une extrême inconvenance, surtout dans sa position.
Elle considéra tour à tour le lorgnon à monture d'or que Pierre Petrovitch tenait dans sa main gauche, puis le gros anneau rehaussé d'une pierre jaune qui brillait aux méduses de cette main. À la fin, ne sachant que faire de ses yeux, elle les fixa sur le visage même de Lougine. Ce dernier, après avoir gardé durant quelques instants un majestueux silence, poursuivit. Hier, il m'est arrivé d'échanger deux mots en passant avec la malheureuse Catherine Ivanovna. Cela m'a suffi pour apprendre qu'elle se trouve dans un état antinaturel, si l'on peut s'exprimer ainsi.
Oui, antinaturel, répéta docilement Sonia.
Ou, pour parler plus simplement et plus intelligiblement, maladif.
Oui, plus simplement et plus intel... Oui, elle est malade.
Oui, alors, par un sentiment d'humanité et pour ainsi dire, de compassion, je voudrais de mon côté lui être utile, prévoyant qu'elle va inévitablement se trouver dans une position fort triste. À présent, paraît-il, toute cette pauvre famille n'a plus que vous pour soutien.
Sonia se leva brusquement. Permettez-moi de vous demander si vous ne lui avez pas dit qu'elle pourrait recevoir une pension. C'est qu'hier, elle m'a dit que vous vous étiez chargé de la lui faire obtenir. Est-ce vrai?
Pas du tout. Et même en un sens, c'est absurde. Je me suis borné à lui faire entendre que, comme veuve d'un fonctionnaire mort au service, elle pourrait obtenir un secours temporaire, si toutefois elle avait des protections. Mais il paraît que, loin d'avoir servi assez longtemps pour s'être créé des droits à une retraite, votre feu père n'était même plus au service quand il est mort. En un mot, on peut toujours espérer, mais l'espoir est très peu fondé, car dans l'espèce, il n'existe pas de droit à un secours. Au contraire.
Ah, elle rêvait déjà d'une pension? C'est une dame qui ne doute de rien.
Oui, elle rêvait d'une pension. Elle est crédule et bonne. Sa bonté lui fait tout croire. Et son esprit est...
Oui, excusez-la, dit Sonia, qui se leva de nouveau pour partir.
Permettez, vous n'avez pas encore tout entendu.
Je n'ai pas encore tout entendu, balbutia la jeune fille.
Eh bien, asseyez-vous donc.
Sonia, toute confuse, se rassit pour la troisième fois.
La voyant dans une telle situation avec des enfants en bas âge, je voudrais, comme je l'ai déjà dit, lui être utile dans la mesure de mes moyens. Comprenez-moi bien, dans la mesure de mes moyens, rien de plus. On pourrait, par exemple, organiser à son profit une souscription, une tombola ou quelque chose d'analogue, comme le font toujours en pareil cas les gens qui désirent venir en aide, soit à des proches, soit à des étrangers. C'est une chose possible.
Oui. « C'est bien. Pour cela, Dieu vous... »
bégaya Sonia, les yeux fixés sur Pierre Petrovitch.
« On le pourrait, mais nous parlerons de cela plus tard. C'est-à-dire, on pourrait commencer aujourd'hui même. Nous nous verrons ce soir. Nous causerons et nous poserons les fondements, pour ainsi dire. Venez me trouver ici à 7 heures. André Semenovitch voudra bien, je l'espère, assister à notre conférence. Mais il y a un point qui doit être soigneusement examiné au préalable. C'est pour cela que j'ai pris sur moi de vous déranger en vous faisant prier de venir ici. Selon moi, il ne faut pas remettre l'argent en main propre à Catherine Ivanovna, et il y aurait même danger à le faire. Je n'en veux d'autre preuve que le dîner d'aujourd'hui. Elle n'a pas de chaussures, sa subsistance n'est même pas assurée pour 2 jours, et elle achète du rhum de la Jamaïque, du madère, du café. Je l'ai vu en passant. Demain, toute la famille retombera à votre charge. Vous devrez lui procurer jusqu'au dernier morceau de pain. C'est absurde. Aussi, suis-je d'avis qu'on organise la souscription à l'insu de la malheureuse veuve, et que vous seul ayez la disposition de l'argent. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas. C'est seulement aujourd'hui qu'elle est ainsi. Cela n'arrive qu'une fois dans la vie. Elle tenait beaucoup à honorer la mémoire du défunt. Mais elle est fort intelligente. Du reste, ce sera comme il vous plaira. Je vous serai très, très... Ils vous seront tous... Et Dieu, vous... Et les orphelins...
Sonia n'acheva pas et fondit en larmes.
Ainsi, c'est une affaire entendue. Maintenant, veuillez accepter pour votre parente cette somme qui représente ma souscription personnelle. Je désire vivement que mon nom ne soit pas prononcé à cette occasion. Voici. Ayant moi-même, en quelque sorte, des embarras pécuniaires, je regrette de ne pouvoir faire plus.
Et Pierre Petrovitch tendit à Sonia un billet de 10 roubles après l'avoir déplié avec soin. La jeune fille reçut l'assignat en rougissant, balbutia quelques mots inintelligibles et se hâta de prendre congé. Pierre Petrovitch la reconduisit jusqu'à la porte. À la fin, elle sortit de la chambre et revint chez Catherine Ivanovna, en proie à une agitation extraordinaire. Pendant toute cette scène, André Séminovitch, ne voulant pas troubler la conversation, était resté près de la fenêtre ou avait marché dans la chambre. Aussitôt que Sonia fut partie, il s'approcha de Pierre Petrovitch et lui tendit la main par un geste solennel. « J'ai tout entendu et tout vu, » dit-il en appuyant avec intention sur le dernier mot. « C'est noble, c'est humain, veux-je dire, car je n'admets pas le mot noble. Vous avez voulu échapper aux remerciements, je l'ai vu. Et quoique, à dire vrai, je sois par principe ennemi de la bienfaisance privée, qui, loin d'extirper radicalement la misère, en favorise les progrès, je ne puis pourtant m'empêcher de reconnaître que j'ai vu votre acte avec plaisir. Oui, oui, cela me plaît.
Et c'est la moindre des choses, murmura Lougine un peu embarrassé, et il regarda Lebeziatnikov avec une attention particulière.
Non, ce n'est pas la moindre des choses. Un homme qui, ulcéré comme vous par un affront récent, est encore capable de s'intéresser au malheur d'autrui, un tel homme peut agir à l'encontre de la saine économie sociale. Il n'en est pas moins digne d'estime. Je n'attendais même pas cela de vous, Pierre Petrovitch. D'autant plus qu'étant donné votre manière de voir, oh, que vous êtes encore empêtré dans vos idées. Comme vous êtes troublé notamment par cette affaire d'hier, s'écria le brave André Séménovitch, qui éprouvait un retour de vive sympathie pour Pierre Petrovitch. Et quel besoin, en vérité, avez-vous de vous marier? De vous marier légalement? Très noble, très cher Pierre Petrovitch. Que vous importe l'union légale? Battez-moi si vous voulez, mais je me réjouis de votre échec. Je suis bien aise de penser que vous êtes libre, que vous n'êtes pas encore tout à fait perdu pour l'humanité. Vous voyez, je suis franc.
Je tiens au mariage légal, parce que je ne veux pas porter de cornes, ni élever des enfants dont je ne serai pas le père, comme cela arrive avec votre mariage libre.
Répondit, pour dire quelque chose, Pierre Petrovitch. Il était pensif, et ne prêtait qu'une oreille distraite aux propos de son interlocuteur.
« Les enfants? Vous avez fait allusion aux enfants ?»
reprit André Séminovitch en s'animant tout à coup comme un cheval de combat qui a entendu le son de la trompette.
« Les enfants, c'est une question sociale qui sera tranchée ultérieurement. Plusieurs même les nient sans restriction, comme tout ce qui concerne la famille. Nous parlerons des enfants plus tard. Maintenant, « occupons-nous des cornes. Je vous avoue que c'est mon faible. Ce mot bas et grossier, mis en circulation par Pouchkine, ne figurera pas dans le dictionnaire de l'avenir. Qu'est-ce en résumé que les cornes? Oh, le vain épouvantail! Oh, que cela est insignifiant! Au contraire, dans le mariage libre, précisément, le danger que vous redoutez n'existera pas. Les cornes ne sont que la conséquence naturelle et, pour ainsi dire, le correctif du mariage légal.
une protestation contre un lien indissoluble. Envisagées à ce point de vue, elles n'ont même rien d'humiliant. Et si jamais, chose absurde à supposer, je contractais un mariage légal, je serais enchantée de porter ces cornes dont vous avez si grand peur. Je dirais alors à ma femme, « Jusqu'à présent, ma chère, je n'avais eu que de l'amour pour toi. Maintenant, je t'estime, parce que tu as su protester. » Vous riez ? C'est parce que vous n'avez pas la force de rompre avec les préjugés. Le diable m'emporte. Je comprends que dans l'union légitime, il soit désagréable d'être trompé. Mais c'est là l'effet misérable d'une situation qui dégrade également les deux époux. Quand les cornes se dressent ouvertement sur votre front, comme dans le mariage libre, alors elles n'existent plus, elles cessent d'avoir un sens et même de porter le nom de corne. Au contraire, votre femme vous prouve par là qu'elle vous estime, puisqu'elle vous croit incapable de mettre obstacle à son bonheur, et trop éclairée pour vouloir tirer vengeance d'un rival. Vraiment, je pense parfois que si j'étais mariée, librement ou légitimement, peu importe, et que ma femme tarda à prendre un amant, je lui en procurerai un moi-même. « Ma chère, lui dirais-je, je t'aime, mais je tiens surtout à ce que tu m'estimes. » Voilà. Est-ce que je n'ai pas raison ? Ces paroles firent à peine rire Pierre Petrovitch. Sa pensée était ailleurs, et il se frottait les mains d'un air soucieux. Andrei Semenovitch se rappela plus tard la préoccupation de son ami. Chapitre 2. Il serait difficile de dire au juste comment l'idée de ce repas insensé prit naissance dans la cervelle détraquée de Catherine Ivanovna. Elle dépensa, de fait, pour le dîner en question, plus de la moitié de l'argent qu'elle avait reçu de Raskolnikov pour les obsèques de Marmeladov. Peut-être Catherine Ivanovna se croyait-elle tenue d'honorer convenablement la mémoire de son mari, pour prouver à tous les locataires, et en particulier à Amalia Ivanovna, que le défunt valait autant qu'eux, si pas plus. Peut-être obéissait-elle à cette fierté des pauvres, qui, dans certaines circonstances de la vie, baptême, mariage, enterrement, etc., pousse les malheureux à sacrifier leurs dernières ressources à seule fin de faire les choses aussi bien que les autres. Il est encore permis de supposer qu'au moment même où elle se voyait réduite à la plus extrême misère, Catherine Ivanovna voulait montrer à tous ces gens de rien non seulement qu'elle savait vivre et recevoir, mais que, fille d'un colonel, élevée dans une maison noble, aristocratique même, pouvait-on dire, elle n'était pas faite pour laver son parquet de ses propres mains et blanchir nuitamment le linge de ses mioches. Les bouteilles de vin n'étaient ni nombreuses, ni de marques très variées, et le madère faisait défaut. Pierre Petrovitch avait exagéré les choses. Cependant, il y avait du vin. On s'était procuré de l'eau-de-vie, du rhum et du porto, le tout de qualité très inférieure, mais en quantité suffisante. Le menu, préparé dans la cuisine d'Amalia Ivanovna, comprenait, outre le koutia, trois ou quatre plats, notamment des blines. De plus, deux samovars furent tenus prêts pour ceux des convives qui voudraient prendre du thé et du punch après le dîner. Catherine Ivanovna s'occupa elle-même des achats, avec l'aide d'un locataire de la maison, un Polonais famélique qui habitait, Dieu sait dans quelles conditions, chez Madame Lippe-Wetzel. Dès le premier moment, ce pauvre diable se mit à la disposition de la veuve, et durant 36 heures, il se prodigua en course avec un zèle qu'il ne perdait d'ailleurs aucune occasion de faire ressortir. À chaque instant, pour la moindre vétille, il accourait, tout effaré, demander les instructions de la Panna Marmeladov. Après avoir déclaré d'abord que sans l'obligeance de cet homme serviable et magnanime, elle n'aurait su que devenir, Catherine Ivanovna finit par trouver son factotum absolument insupportable.
Il était dans ses habitudes de s'engouer à brûle-pourpoint du premier venu. Elle le voyait sous les couleurs les plus brillantes et lui prêtait 1000 mérites qui n'existaient que dans son imagination, mais auxquels elle croyait de tout son cœur. Puis, à l'enthousiasme, succédait brusquement la désillusion. Alors, elle chassait avec force paroles injurieuses celui que, peu d'heures auparavant, elle avait comblé des louanges les plus excessives. Amalia Ivanovna prit aussi une soudaine importance aux yeux de Catherine Ivanovna et grandit considérablement dans son estime. Peut-être par cette seule raison que la logeuse avait donné tous ses soins à l'organisation du repas. Ce fut elle, en effet, qui se chargea de mettre à la table, de fournir le linge, la vaisselle, etc., et de cuisiner le dîner. En partant pour le cimetière, Catherine Ivanovna lui délégua ses pouvoirs, et Madame Lippe-Wetzel se montra digne de cette confiance. Le couvert se trouva même dressé assez convenablement. Sans doute, la vaisselle, les verres, les tasses, les fourchettes, les couteaux, empruntés à différents locataires, trahissaient par d'étranges disparates leurs origines diverses. Mais, à l'heure dite, chaque chose était à sa place. Quand on revint à la maison mortuaire, on put remarquer une expression de triomphe sur le visage d'Amalia Ivanovna. Fière d'avoir si bien rempli sa mission, la logeuse se pavanait dans sa robe de deuil toute neuve. Elle avait aussi rajeuni la garniture de son bonnet. Cet orgueil, quelque légitime qu'il fût, ne plut pas à Catherine Ivanovna. Comme si, vraiment, on n'aurait pas su mettre la table sans Amalia Ivanovna. Le bonnet enrubanné à neuf lui déplut de même. Ne voilà-t-il pas cette sotte allemande qui fait ses embarras? Elle, la logeuse, a daigné par bonté d'âme venir en aide à de pauvres locataires. Par bonté d'âme, voyez-vous cela? Chez le papa de Catherine Ivanovna, qui était colonel, il y avait quelquefois 40 personnes à dîner, et l'on n'aurait pas reçu, même à l'office, une Amalia Ivanovna, ou, pour mieux dire, Lugvigovna. Catherine Ivanovna ne voulut pas manifester sur l'heure ses sentiments, mais elle se promit de remettre à sa place, aujourd'hui même, cette impertinente. Une autre circonstance contribua encore à irriter la veuve. À l'exception du Polonais, qui alla jusqu'au cimetière, presque aucun des locataires invités à assister à l'enterrement ne s'y rendit. En revanche, quand il s'agit de se mettre à table, on vit arriver tout ce qu'il y avait de plus pauvre et de moins recommandable parmi les habitants de la maison. Quelques-uns se présentèrent même dans une tenue plus que négligée. Les locataires un peu propres semblaient s'être donné le mot pour ne pas venir, à commencer par Pierre Petrovitch Lougine, le plus comme il faut d'entre eux. Cependant, la veille au soir, Catherine Ivanovna avait dit merveille de lui à tout le monde, c'est-à-dire à Madame Lippe-Wetzel, à Poletchka, à Sonia et au Polonais. C'était, assurait-elle, un homme très noble et très magnanime, avec cela puissamment riche et possédant des relations superbes. D'après elle, il avait été l'ami de son premier mari. Il fréquentait autrefois chez son père et il avait promis d'user de tout son crédit pour lui obtenir une pension importante. Notons à ce propos que, quand Catherine Ivanovna vantait la fortune et les relations de quelqu'un de ses connaissances, elle le faisait toujours sans calcul d'intérêt personnel, et seulement pour rehausser le prestige de celui qu'elle louait. Après Lougine, et probablement à son exemple, s'abstint aussi de paraître ce polisson de Lebezianitkov. Quelle idée celui-là se faisait-il donc de lui-même? Catherine Ivanovna avait été bien bonne de l'inviter, et encore s'y était-elle décidée uniquement parce que Pierre Petrovitch et lui habitaient ensemble. Du moment qu'on faisait une politesse à l'un, il fallait la faire à l'autre. On remarqua également l'absence d'une femme du monde et de sa fille, qui montait en graine. Ces deux personnes ne demeuraient que depuis 15 jours chez Madame Lippe-Wetzel. Cependant, elles avaient déjà fait plusieurs fois des observations
au sujet du bruit qui se produisait dans la chambre de Marmeladov, surtout lorsque le défunt rentrait ivre au logis. Comme bien on pense, la logeuse s'était empressée de porter ses plaintes à la connaissance de Catherine Ivanovna. Au cours de ses incessants démêlés avec sa locataire, Amalia Ivanovna menaçait de mettre tous les Marmeladov à la porte. « Attendu, criait-elle, qu'il troublait le repos de personnes distinguées dont il ne valait pas les pieds. » Dans la circonstance présente, Catherine Ivanovna avait tenu tout particulièrement à inviter ces deux dames, dont elle ne valait pas les pieds. D'autant plus que quand elle se rencontrait dans l'escalier avec la femme du monde, celle-ci se détournait d'un air dédaigneux. C'était une façon de montrer à cette pimbèche combien Catherine Ivanovna lui était supérieure par les sentiments, elle qui oubliait les mauvais procédés. D'un autre côté, la mère et la fille pourraient se convaincre pendant ce repas qu'elle n'était pas née pour la condition dans laquelle elle se trouvait. Elle était bien décidée à leur expliquer cela à table, à leur apprendre que son papa avait rempli les fonctions de gouverneur et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu de détourner la tête quand on la rencontrait. Un gros lieutenant-colonel, en réalité capitaine d'état-major retiré du service, fit aussi faux bond à Catherine Ivanovna. Celui-là, il est vrai, avait une excuse. Depuis la veille, la goutte le clouait sur son fauteuil. En revanche, outre le Polonais, arriva d'abord, vêtu d'un frac graisseux, un clerc de chancellerie, laid, bourgeonné, sentant mauvais et silencieux comme un poisson. Puis un ancien employé des postes, petit vieillard sourd et presque aveugle, dont quelqu'un payait le loyer chez Amalia Ivanovna depuis un temps immémorial. Ces deux individus furent suivis d'un lieutenant en retraite, ou pour mieux dire, d'un ancien ripincel. Ce dernier, pris de boisson, fit son entrée en riant aux éclats de la façon la plus indécente, et, figurez-vous, sans gilet. Un invité alla de but en blanc se mettre à table, sans même saluer Catherine Ivanovna. Un autre, faute de vêtements, se présenta en robe de chambre. Pour le coup, c'en était trop. Et ce monsieur sans gêne fut expulsé par Amalia Ivanovna, aidée du Polonais. Celui-ci avait, du reste, amené deux de ses compatriotes qui n'avaient jamais logé chez Madame Lippe-Wetzel et que personne ne connaissait dans la maison. Tout cela causa un vif mécontentement à Catherine Ivanovna. C'était bien la peine de faire tant de préparatifs pour recevoir de pareils gens. De crainte que la table qui occupait cependant toute la largeur de la chambre ne se trouvât trop petite, on avait été jusqu'à dresser le couvert des enfants sur une malle dans un coin. Poletchka, comme l'aînée, devait avoir soin des deux plus jeunes, les faire manger et leur moucher le nez. Dans ces conditions, Catherine Ivanovna ne put s'empêcher d'accueillir son monde avec une hauteur presque insolente. Rendant, nous ne savons pourquoi, Amalia Ivanovna responsable de l'absence des principaux invités, elle le prit soudain sur un ton si désobligeant avec la logeuse que celle-ci le remarqua tout de suite et en fut extrêmement froissée. Le repas s'annonçait sous de fâcheux auspices. À la fin, on se mit à table. Raskolnikov parut, comme on arrivait à peine du cimetière. Catherine Ivanovna fut enchantée de le voir, d'abord parce que, de toutes les personnes présentes, il était le seul homme cultivé. Elle le présenta à ses invités, comme devant, d'ici à 2 ans, occuper une chaire de professeur à l'université de Pétersbourg. Ensuite, parce qu'il s'excusa respectueusement de n'avoir pu, malgré tout son désir, assister aux obsèques. Elle s'empressa de le faire asseoir à sa gauche, Amalia Ivanovna ayant pris place à sa droite. Puis elle engagea à demi-voix avec le jeune homme une conversation aussi suivie que le lui permettaient ses devoirs de maîtresse de maison. D'autre part, la maladie dont elle souffrait avait pris depuis 2 jours un caractère plus alarmant que jamais. et la toux qui lui déchirait la poitrine l'empêchait souvent de terminer ses phrases. Cependant, elle était heureuse d'avoir à qui confier l'indignation qu'elle éprouvait devant cette réunion de figures hétéroclites. Au début, sa colère se traduisit par des moqueries à l'adresse des invités, et surtout de la propriétaire elle-même. « Tout cela, c'est la faute de cet imbécile. Vous comprenez de qui je parle ?» Et Catherine Ivanovna montra d'un signe de tête la logeuse. « Regardez-la, elle écarquille ses yeux, elle devine que nous parlons d'elle, mais elle ne peut pas comprendre ce que nous disons. Voilà pourquoi elle fait des yeux en boule de loto. Oh, la chouette! Et qu'est-ce qu'elle prétend prouver avec son bonnet? Elle veut faire croire à tout le monde qu'elle m'honore beaucoup en s'asseyant à ma table. Je l'avais priée d'inviter des gens un peu comme il faut, et de préférence ceux qui avaient connu le défunt. Or, vous voyez quelle collection de malotrus et de goujats elle m'a recruté. Regardez, celui-là ne s'est pas lavé, il est dégoûtant. Et ces malheureux Polonais, personne ne les connaît ici, c'est la première fois que je les vois. Pourquoi sont-ils venus, je vous le demande? Ils sont là en randoignant à côté l'un de l'autre. Et pan ! Cria-t-elle à l'un d'eux. Avez-vous pris des blines? Prenez-en encore, buvez de la bière. Vous voulez de l'eau-de-vie? Tenez, voyez, il s'est levé, il salue. Ce sont sans doute des pauvres diables, des meurs de faim. Tout ça m'est égal du moment qu'ils mangent. Au moins, ils ne font pas de bruit. Seulement j'ai peur pour les couverts d'argent de la logeuse. Amalia Ivanovna, dit-elle presque à haute voix en s'adressant à Madame Lippe-Wetzel, si par hasard on vole vos cuillères, je vous préviens que je n'en réponds pas. Après cette satisfaction donnée à son ressentiment, elle se tourna de nouveau vers Raskolnikov et ricana en lui montrant la logeuse. « Elle n'a pas compris, elle ne comprend jamais. Elle reste là, bouche béante. Voyez donc, c'est une vraie chouette, une chouette fraîchement enrubannée. Ce rire se termina en un accès de toux qui dura 5 minutes. Elle porta son mouchoir à ses lèvres, puis le montra silencieusement à Raskolnikov. Il était taché de sang. Des gouttes de sueur perlaient sur le front de Catherine Ivanovna. Ses pommettes se coloraient de rouge et sa respiration devenait des plus difficiles. Néanmoins, elle continua de causer à voix basse, avec une animation extraordinaire. « Je lui avais confié la mission, fort délicate, on peut le dire, d'inviter cette dame et sa fille. Vous savez de qui je veux parler. Il fallait procéder ici avec beaucoup de tact. Eh bien, elle s'y est prise de telle façon que cette sotte étrangère, cette pec provinciale qui est venue ici pour solliciter une pension comme veuve d'un major et qui court du matin au soir les chancelleries avec un pied de phare sur le visage à 55 ans passés, bref, cette mijaurée a refusé mon invitation sans même s'excuser, comme la plus vulgaire politesse commande de le faire en pareil cas. Je ne puis comprendre pourquoi Pierre Petrovitch n'est pas venu non plus. Mais où est donc Sonia? Qu'est-elle devenue? Ah, la voilà enfin. Eh bien, Sonia, où étais-tu? C'est étrange que même un jour comme aujourd'hui, tu sois si peu exacte. Rodion Romanovitch, laissez-la se placer à côté de vous. Voilà ta place, Sonia. Prends ce que tu veux. Je te recommande le caviar, il est bon. On va t'apporter les blines. Mais en a-t-on donné aux enfants? Poletchka, on ne vous oublie pas là-bas. Allons, c'est bien. Sois sage, Léna. Et toi, Kolia, n'agite pas ainsi tes jambes. Tiens-toi comme doit se tenir un enfant de bonne famille. Qu'est-ce que tu dis, Sonetchka? Sonia se hâta de transmettre à sa belle-mère les excuses de Pierre Petrovitch, en s'efforçant de parler haut pour que tous puissent l'entendre. Non contente de reproduire les formules polies dont Lougine s'était servie, elle fit exprès de les amplifier encore. Pierre Petrovitch, ajouta-t-elle, l'avait chargé de dire à Catherine Ivanovna qu'il viendrait la voir aussitôt que possible pour causer d'affaires et s'entendre avec elle sur la marche à suivre ultérieurement. etc., etc. Sonia savait que cela tranquilliserait Catherine Ivanovna, et surtout que son amour-propre y trouverait une satisfaction. La jeune fille s'assit à côté de Raskolnikov, qu'elle salua à la hâte, en lui jetant un regard rapide et curieux. Mais pendant le reste du dîner, elle parut éviter de le regarder et de lui adresser la parole. Elle semblait même distraite, bien qu'elle tînt les yeux fixes sur le visage de Catherine Ivanovna pour deviner les désirs de sa belle-mère. Faute de vêtements, aucune des deux femmes n'était en deuil. Sonia portait un costume cannelle foncé. La veuve avait mis une robe d'indienne de couleur sombre, la seule qu'elle possédât. Les excuses de Pierre Petrovitch furent très bien accueillies. Après avoir écouté d'un air gourmé le récit de Sonia, Catherine Ivanovna prit un ton important pour s'informer de la santé de Pierre Petrovitch. Ensuite, sans trop s'inquiéter des autres invités qui pouvaient l'entendre, elle fit observer à Raskolnikov qu'un homme aussi considéré et aussi respectable que Pierre Petrovitch eût été fort dépaysé au milieu d'une société si extraordinaire. Elle comprenait donc qu'il ne fût point venu, malgré les vieux liens d'amitié qui l'unissaient à sa famille. Voilà pourquoi, Rodion Romanovitch, je vous sais un gré tout particulier de n'avoir pas dédaigné mon hospitalité, même offerte dans de pareilles conditions, ajouta-t-elle presque à haute voix. Du reste, j'en suis convaincue, c'est seulement votre amitié pour mon pauvre défunt qui vous a décidé à tenir votre parole. » Puis, Catherine Ivanovna se remit à plaisanter sur le compte de ses hôtes. Tout à coup, s'adressant avec une sollicitude particulière au vieillard sourd, elle lui cria d'un bout de la table à l'autre « Voulez-vous encore du rôti? Vous a-t-elle donné du porto ?» Le convive ainsi interpellé ne répondit pas et fut longtemps sans comprendre ce qu'on lui demandait, bien que ses voisins essayassent en riant de le lui expliquer. Il regardait autour de lui et restait bouche béante, ce qui ajouta encore à l'hilarité générale. Quel butor, regardez! Et pourquoi l'a-t-on invité? Dit Catherine Ivanovna à Raskolnikov. « Quant à Pierre Petrovitch, j'ai toujours compté sur lui. »« Certes, » poursuivit-elle en s'adressant à Amalia Ivanovna avec un regard sévère qui intimida la logeuse. « Certes, il ne ressemble pas à vos chipis endimanchés. Celle-là, papa n'en aurait pas voulu pour cuisinière. Et si mon défunt mari leur avait fait l'honneur de les recevoir, ce n'eût été que par suite de son excessive bonté. »« Oui. » « Il aimait à boire. Il avait un faible pour la bouteille. » cria soudain l'ancien employé aux subsistances, comme il vidait son 12e verre d'eau-de-vie. Catherine Ivanovna releva vertement cette parole inconvenante. « En effet, mon défunt mari avait ce défaut, tout le monde le sait. Mais c'était un homme bon et noble, qui aimait et respectait sa famille. On ne pouvait lui reprocher que l'excès de sa bonté. Il acceptait trop facilement pour amis toutes sortes de gens débauchés, et Dieu sait avec qui il n'a pas bu. Les individus qu'il fréquentait ne valaient pas la plante de ses pieds. Figurez-vous, Rodion Romanovitch, qu'on a trouvé dans sa poche un petit coq en pain d'épices. Au plus fort de l'ivresse, il n'oubliait pas ses enfants. « Un petit coq? Vous avez dit un petit coq ?» cria le ripincelle. Catherine Ivanovna ne daigna pas lui répondre. Devenue rêveuse, elle poussa un soupir. « Vous croyez sans doute, comme tout le monde, que j'ai été trop dure avec lui, » reprit-elle en s'adressant à Raskolnikov. « C'est une erreur. Il m'estimait. Il avait pour moi le plus grand respect. Son âme était bonne. Et parfois, il m'inspirait tant de pitié. Quand, assis dans un coin, il levait les yeux sur moi, je me sentais si attendrie que j'avais peine à cacher mon émotion. Mais je me disais, si tu faiblis, il va se remettre à boire. On ne pouvait le tenir un peu que par la sévérité. Oui, on le tirait par les cheveux. Cela est arrivé plus d'une fois. » brailla le ripincelle, et il but encore un verre d'eau-de-vie. Il y a certains imbéciles qu'on devrait non pas seulement tirer par les cheveux, mais chasser à coups de balai. Je ne parle pas du défunt en ce moment, répliqua avec véhémence Catherine Ivanovna. Ses joues s'empourpraient, sa poitrine haletait de plus en plus. Encore un moment, et elle allait faire un scandale. Beaucoup riaient, trouvant cela drôle. On excitait l'employé aux subsistances, on lui parlait tout bas, c'était à qui verserait de l'huile sur le feu. « Permettez-moi de vous demander de qui vous parlez. À qui en avez-vous ? » fit l'employé d'une voix menaçante. « Mais non, c'est inutile, la chose n'a pas d'importance. Une veuve, une pauvre veuve, je lui pardonne. Passe !» Et il avala un nouveau verre d'eau de vie. Raskolnikov écoutait en silence. Ce qu'il éprouvait était une sensation de dégoût. Par politesse seulement, et pour ne pas désobliger Catherine Ivanovna, il touchait du bout des dents au mets dont elle couvrait à chaque instant son assiette. Le jeune homme tenait les yeux fixés sur Sonia. Celle-ci, de plus en plus soucieuse, suivait avec inquiétude les progrès de l'exaspération chez Catherine Ivanovna. Elle pressentait que le dîner finirait mal. Entre autres choses, Sonia savait qu'elle-même était la principale cause qui avait empêché les deux provinciales d'assister à ce repas. Elle avait appris de la propre bouche d'Amalia Ivanovna qu'en recevant l'invitation, la mère blessée avait demandé comment elle pourrait faire asseoir sa fille à côté de cette demoiselle. La jeune fille se doutait que sa belle-mère était déjà instruite de cette avanie. Or, une insulte qui atteignait Sonia, c'était pour Catherine Ivanovna pis qu'un affront fait à elle-même, à ses enfants ou à la mémoire de son papa. C'était un mortel outrage. Sonia devinait que Catherine Ivanovna n'avait plus à présent qu'une chose à cœur. Prouver à ses chipies qu'elles étaient toutes deux, etc. Justement, un convive assis à l'autre bout de la table fit passer à Sonia une assiette sur laquelle se trouvaient, façonnées avec de la mie de pain, deux cœurs percés d'une flèche. Catherine Ivanovna, enflammée de colère, déclara aussitôt d'une voix retentissante que l'auteur de cette plaisanterie était assurément un âne ivre. Ensuite, elle annonça son dessein de se retirer, dès qu'elle aurait obtenu sa pension, à T, sa ville natale, où elle ouvrirait une maison d'éducation à l'usage des jeunes filles nobles. Tout à coup se trouva entre ses mains l'attestation honorifique dont feu Marmeladov avait parlé à Raskolnikov lors de leur rencontre au cabaret. Dans la circonstance présente, ce document devait établir le droit de Catherine Ivanovna à ouvrir un pensionnat, mais elle s'en était munie surtout dans le but de confondre les deux chipies, si celle-ci avait accepté son invitation. Elle leur aurait démontré avec pièce à l'appui que la fille d'un colonel, la descendante d'une famille noble, pour ne pas dire aristocratique, valait un peu mieux que les chercheuses d'aventure dont le nombre est devenu si grand aujourd'hui. L'attestation honorifique eut bientôt fait le tour de la table. Les convives avinés se la passaient de main en main sans que Catherine Ivanovna s'y opposât, car ce papier la désignait en toutes lettres comme fille d'un conseiller de cour, ce qui l'autorisait, ou à peu près, à se dire fille d'un colonel. Puis la veuve s'étendit sur les charmes de l'existence heureuse et tranquille qu'elle se promettait de mener à T. Elle ferait appel au concours des professeurs du gymnase. Parmi eux se trouvait un vieillard respectable, M. Mango, qui lui avait jadis appris le français. Il n'hésiterait pas à venir donner des leçons chez elle et se montrerait coulant sur le prix. Enfin, elle annonça l'intention d'emmener Sonia à T et de lui confier la haute main dans son établissement. À ces mots, quelqu'un éclata de rire au bout de la table. Catherine Ivanovna feignit de n'avoir rien entendu. Mais, élevant aussitôt la voix, elle déclara que Sophie Semenovna possédait toutes les qualités requises pour la seconder dans sa tâche. après avoir vanté la douceur de la jeune fille, sa patience, son abnégation, sa culture intellectuelle et sa noblesse de sentiment, elle lui tapota doucement la joue et l'embrassa à deux reprises avec effusion. Sonia rougit. Et tout à coup, Catherine Ivanovna fondit en larmes. « J'ai les nerfs très agités, » dit-elle, comme pour s'excuser, « et je n'en puis plus de fatigue. Aussi bien le repas est fini, on va servir le thé. » Amalia Ivanovna, très vexée de n'avoir pu placer un seul mot durant la conversation précédente, choisit ce moment pour risquer une dernière tentative et fit observer fort judicieusement à la future maîtresse de pension qu'elle devrait donner la plus grande attention au linge de ses élèves et empêcher celle-ci de lire des romans pendant la nuit. La fatigue et l'agacement rendaient Catherine Ivanovna peu endurante. Aussi prit-elle fort mal ses sages conseils. À l'en croire, la logeuse n'entendait rien aux choses dont elle parlait. Dans un pensionnat de jeunes filles nobles, le soin du linge regardait la femme de charge et non la directrice de l'établissement. Quant à l'observation relative à la lecture des romans, c'était une simple inconvenance. Bref, Amalia Ivanovna était priée de se taire. Au lieu de se rendre à cette prière, la logeuse répondit aigrement qu'elle n'avait parlé que pour un bien, qu'elle avait toujours eu les meilleures intentions, et que depuis longtemps, Catherine Ivanovna ne lui payait pas un sou. « Vous mentez en parlant de vos bonnes intentions, » reprit la veuve. « Pas plus tard qu'hier, quand le défunt était exposé sur la table, vous êtes venu me faire une scène à propos du loyer. » Là-dessus, la logeuse observa avec beaucoup de logique qu'elle avait invité ces dames, mais que ces dames n'étaient pas venues parce que ces dames étaient nobles et ne pouvaient pas aller chez une dame qui n'était pas noble. À quoi son interlocutrice objecta qu'une cuisinière n'avait pas qualité pour juger de la véritable noblesse. Amalia Ivanovna, piquée au vif, répliqua que son vater était un homme très, très important à Berlin, qu'il se promenait les deux mains dans ses poches et faisait toujours pouf-pouf. Pour donner une idée plus exacte de son vater, Madame Lippe-Wetzel se leva, fourra ses mains dans ses poches et, gonflant ses joues, se mit à imiter le bruit d'un soufflet de forge. Ce fut un rire général parmi tous les locataires, qui, dans l'espoir d'une bataille entre les deux femmes, se plaisait à exciter Amalia Ivanovna. Catherine Ivanovna, perdant alors toute mesure, déclara à très haute voix que peut-être Amalia Ivanovna n'avait jamais eu de vater, que c'était tout simplement une finnoise de Pétersbourg qui avait dû être jadis cuisinière, ou même quelque chose de pire. Riposte furieuse d'Amalia Ivanovna. C'était peut-être Catherine Ivanovna elle-même qui n'avait pas eu de vater. Quant à elle, son vater était un berlinois qui portait de longues redingotes et faisait toujours pouf-pouf. Catherine Ivanovna répondit d'un ton méprisant que sa naissance était connue de tout le monde et que cette même attestation honorifique, en caractères imprimés, la désignait comme fille d'un colonel. Tandis qu'Amalia Ivanovna, à supposer qu'elle eût un père, devait avoir reçu le jour de quelque marchand de lait finnois. Mais, selon toute apparence, elle n'avait pas de père du tout, attendu qu'on ne savait pas encore quel était son nom patronymique, si elle s'appelait Amalia Ivanovna ou Amalia Ludvigovna. La logeuse, hors d'elle-même, s'écria en frappant du poing sur la table qu'elle était Ivanovna et non Ludvigovna, que son vater s'appelait Johann et qu'il était bailli, ce que n'avait jamais été le vater de Catherine Ivanovna. Celle-ci se leva aussitôt, et d'une voix calme que démentait la pâleur de son visage et l'agitation de son sein. « Si vous osez encore une fois, dit-elle, mettre votre misérable vater en parallèle avec mon papa, je vous arrache votre bonnet et je le foule aux pieds. » À ces mots, Amalia Ivanovna commença à courir dans la chambre en criant de toutes ses forces qu'elle était la propriétaire et que Catherine Ivanovna s'en irait de chez elle à l'instant même. Puis elle se hâta d'enlever les couverts d'argent qui se trouvaient sur la table. Il s'ensuivit une confusion, un vacarme indescriptible. Les enfants se mirent à pleurer. Sonia s'élança vers sa belle-mère pour l'empêcher de se porter à quelque violence. Mais Amalia Ivanovna ayant soudain lâché tout haut une allusion au billet jaune, Catherine Ivanovna repoussa la jeune fille et marcha droit à la logeuse, prête à lui arracher son bonnet. En ce moment, la porte s'ouvrit, et sur le seuil apparut tout à coup Pierre Petrovitch Loujine. Il promena un regard sévère sur toute la société. Catherine Ivanovna courut à lui.